Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons donc aujourd'hui la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. De Sainte Jeanne d'Arc, qui a été béatifiée par Saint Pie X en 1909, canonisée par Benoît XV en 1920, déclarée patronne secondaire de la France par Pie XI en 1922, on a dit et écrit énormément de choses. Mais s'il est toujours instructif de détailler les exploits militaires de Jeanne, sa mission providentielle de libératrice nationale, son rôle de messagère de la politique divine, il y a dans sa courte vie un autre aspect fondamental, souvent oublié, presque toujours incompris. C'est la part qu'a eue Jeanne au salut de la France comme victime, on peut même dire comme martyr. De toutes les leçons que nous offre l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est peut-être la plus importante à retenir, la plus profonde, la plus riche d'enseignements, et aussi la plus intemporelle d'une certaine manière, et par conséquent, elle s'applique toujours à notre temps. En outre, comme nous allons le voir, cet aspect de l'histoire de Jeanne, le don total de sa personne à la cause de Dieu, présente de grandes similitudes avec l'histoire des enfants de Fatima. Et ce n'est pas indifférent cette année que de souligner ce rapprochement. Dans les deux cas, c'est la même pédagogie divine, mystérieuse sans doute, mais tout à fait adorable. Dieu, en effet, intervient dans l'histoire de deux manières. Habituellement, il laisse les hommes s'agiter selon le libre cours de leurs pensées et de leurs désirs qui sont souvent coupables. Et tirant le bien du mal, tournant les obstacles en moyens, Dieu fait servir les événements et les actions humaines à l'accomplissement de sa volonté toute-puissante. C'est sa manière habituelle d'agir. Mais parfois, Dieu prend lui-même en main sa propre cause, si l'on peut dire, et il se donne un instrument de son choix. Et cet instrument, formé par lui, est toujours saint. Mais comme c'est sa propre puissance que Dieu veut faire éclater, cet instrument est également presque toujours faible. Et c'est justement le cas de Jeanne et aussi des pastoureaux de Fatima. Et quoi qu'il en soit des desseins particuliers que Dieu poursuit en chacune des interventions spéciales de sa providence au cours de l'histoire, il y a un principe fondamental qui revient toujours. À travers l'instrument que Dieu s'est choisi, il veut faire comprendre aux hommes que c'est la sainteté qui élève les nations et que c'est le péché qui rend les peuples misérables. C'est une citation du livre des Proverbes. Le péché, en effet, est le grand mal, l'unique mal de l'humanité, la cause de tous ses malheurs. Et donc, le grand remède, l'unique remède, et c'est aussi ce que le bon Dieu veut nous faire comprendre au travers des instruments qu'il se choisit, l'unique remède, c'est la croix de Jésus. Et c'est pourquoi tout ce qui vient de Dieu porte l'empreinte de la croix. L'œuvre de Dieu est nécessairement marquée du sceau de la souffrance rédemptrice. Et c'est pourquoi la croix est partout présente dans la mission providentielle de Sainte Jeanne d'Arc, comme on la trouve aussi dans la mission des enfants de Fatima. La croix, la souffrance, le martyr sont inséparables de la mission divine en ce bas monde. Jeanne doit porter la croix jusqu'au sacrifice suprême du bûcher de Rouen. Sa mission perd tout son sens, elle devient même incompréhensible si on la sépare de la croix et du bûcher de Rouen. Et vous avez pu remarquer que précisément la liturgie a choisi comme évangile pour cette fête de Sainte Jeanne d'Arc ce texte qui nous dit qu'il faut porter notre croix derrière Jésus. Le christianisme repose tout entier sur le dogme de l'expiation, de la rédemption par la souffrance. Le sauveur des hommes, quand on y regarde, a peu agi au fond, mais il a beaucoup souffert. L'évangile est concis sur la vie de Jésus, mais il est très prolixe sur sa passion. Ça représente pratiquement la moitié du texte, et même plus. Sa grande œuvre, ça a été de mourir. C'est par sa mort que notre Seigneur a sauvé et vivifié le monde. Eh bien, la grande œuvre de Jeanne d'Arc, c'est aussi de mourir. Nous avons beaucoup de mal à comprendre cette vérité. Et c'est pourquoi Dieu doit souvent nous la rappeler. Le disciple, le chrétien, pardon, est un disciple du crucifié. Il doit porter sa croix à la suite de Jésus. Et c'est ainsi et uniquement ainsi que sa vie est féconde. Le sacrifice fait partie de l'essence du christianisme. Un chrétien qui souffre, c'est Jésus encore qui souffre dans les membres de son corps, qui prolonge et achève l'œuvre de sa rédemption. Et c'est pourquoi, dans la balance divine, pour le salut d'un peuple, une âme qui embrasse la croix, un martyr, pèse plus qu'un héros. C'est ce que nous enseigne là encore l'Écriture. « Celui qui pâtit vaut mieux qu'un héros », dit le livre des Proverbes, « et celui qui domine son âme vaut mieux que le guerrier qui conquiert des villes ». C'est exactement l'exemple que nous donne Sainte Jeanne d'Arc. Alors faisons l'application, si vous le voulez, à quelques événements de sa vie, en signalant au passage le parallèle avec les enfants de Fatima. Dès le début, même si elle ne connaît pas encore sa destinée finale, Jeanne marche vers son calvaire. Les deux saintes que Dieu lui donne pour conseillère et pour assistante sont deux martyrs, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Et ce qu'elle lui annonce, c'est une mission redoutable, pleine de renoncement et de souffrance, qui va l'arracher à tout ce qu'elle aime, sa famille, sa maison, sa vie cachée, avec pour toute récompense finale la promesse de la conduire au paradis. Eh bien, on trouve la même chose chez les enfants de Fatima. Vous connaissez ce texte, ce que la Vierge a dit aux enfants lors de la première apparition, le 13 mai, dont nous avons fêté hier le centenaire. Notre-Dame leur a dit « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ?» Et généreusement, les enfants ont répondu « Oui, nous le voulons. » Alors la Vierge les a prévenus « Vous aurez donc beaucoup à souffrir à des petits-enfants. » Mais dès cet instant également, elle leur a promis le ciel. Vous voyez comme le parallèle est frappant. Revenons à Jeanne. Pour elle, l'école de la douleur commence aussitôt. Elle est méprisée comme une visionnaire. Elle est repoussée comme une intrigante. Elle est même exorcisée comme une démoniaque. Et quand elle obtient d'être conduite auprès du roi, c'est pour y rencontrer de nouvelles épreuves plus pénibles encore. Elle doit endurer des soupçons injurieux, des dédains humiliants, des incompréhensions jalouses et haineuses, y compris de la part des gens d'Église qui auraient dû aider et favoriser sa mission divine. Eh bien là encore, à Fatima, on trouve la même chose. Les enfants doivent affronter l'incompréhension, les railleries, les critiques et même la persécution. Lucie, notamment, connaît un véritable martyr du cœur. Sa mère la croit menteuse et elle voudrait qu'elle se dédise. Troublée, l'enfant est même assaillie de doutes au point qu'elle ne veut plus aller au rendez-vous du 13 juillet avec Notre-Dame. Et elle ne retrouvera la paix que par une grâce du ciel et par la prière du petit François. Ensuite, si on continue la vie de Sainte Jeanne d'Arc, si on regarde toute sa carrière militaire tout au long de cette courte carrière où elle vole de succès en succès, Jeanne néanmoins doit acheter par ses souffrances les victoires de son armée ou la délivrance des villes et surtout le triomphe du sacre de Reims. Tout cela n'est pas gratuit d'une certaine manière. Elle est plusieurs fois blessée au cours des batailles. Elle souffre. Elle est séparée de tout ce qui aurait fait sa vie si elle était restée à Domrémy. Elle pleure souvent, on le voit dans les chroniques. Sans cesse, le ciel lui fait sentir que ce n'est pas elle qui agit, mais le bras divin qui agit par elle. On peut dire qu'en elle se réalise ce que dit saint Paul, « Ma force n'est pas de moi, mais de Dieu, car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Eh bien, de la même manière, là encore, les enfants de Fatima apprennent à l'école de Notre-Dame ce que coûtent les âmes. Les âmes coûtent cher. Et quelle est la puissance de la prière et du sacrifice? Vous connaissez l'histoire de ces enfants, de ce nombre incalculable de prières et de sacrifices, et des sacrifices héroïques pour leur âge. Tous ces sacrifices qu'ils font pour obtenir la fin de la guerre, pour arracher les âmes à l'enfer, pour consoler Jésus, et puis pour réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Tout cela est vraiment admirable. Mais c'est surtout après le sacre de Reims que Jeanne va consommer son sacrifice et mettre la dernière main à sa mission. Comme Jésus, Jeanne achève sa vie par une douloureuse passion. Le parallèle est tout à fait frappant là encore. À partir de ce moment, ses voix se font de plus en plus silencieuses. Quand Jeanne volait à la victoire, Dieu la conduisait par le bras. Mais quand elle s'achemine vers le bûcher, Dieu se cache pour un temps et semble lui retirer son concours. Comment ne pas penser à Jésus disant du haut de sa croix « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» En août 1429, Jeanne marche sur Paris, mais pour la première fois, malgré un plan de bataille très bien conçu, la victoire ne lui obéit pas. Blessée sous les murs de la cité, elle voudrait y mourir, mais la mort ne veut pas d'elle. Ses adversaires triomphent et ses amis doutent et n'osent plus se prononcer en sa faveur. Cela nous rappelle ce qui s'est passé pour les apôtres. Les apôtres, témoins de tant de miracles, ont eux aussi abandonné et renié leur maître quand vint l'heure des méchants et la puissance des ténèbres, comme dit saint Luc. Leurs convictions ont péri avec leurs espérances. Vous vous souvenez du mot employé par les pèlerins d'Emmaüs, « sperabamus », nous espérions. Eh bien, Jeanne de même voit en un instant toute sa gloire passée s'effacer aux yeux des hommes. Le caractère surnaturel de ses expéditions les plus extraordinaires, tout cela est oublié. « Sperabamus », c'est un petit peu aussi ce que disent les contemporains, « nous espérions ». Jeanne est donc abandonnée des siens, elle est même trahie et elle est capturée à Compiègne le 23 mai 1430. Elle est vendue à l'ennemi exactement comme son divin maître. La prison s'ouvre alors pour elle, prison affreuse où l'attendent des supplices et des perfidies ignobles. Pour la juger, un tribunal est érigé et on peut dire que ce tribunal est érigé par la haine. Un évêque, nouveau caïphe, va présider ce tribunal et aux voix du ciel qui la rassurait, on lui oppose la voix de l'Église, ou plutôt la voix prétendue de l'Église, car les juges qui l'interrogent ne sauraient représenter la véritable Église. L'Église parlera un jour, un peu plus tard, et l'on saura ce qu'elle pense de cette affaire, mais à ce moment-là, nul ne le sait. Comme Jésus, Jeanne est interrogée, jugée, condamnée, avec tout l'appareil des formes légales, tout le cérémonial imposant de l'orthodoxie. Il faut imaginer ce que c'était. Elle était seule. Jésus, lui, était Dieu quand il était interrogé. Elle, elle n'est qu'une simple femme, qu'une faible femme. Alors si l'homme-Dieu a frémi, s'il a sué une sueur de sang, s'il a eu besoin qu'un ange vint le soutenir dans son agonie, s'il a demandé que le calice de la douleur passât loin de lui, comment s'étonner du trouble de Jeanne, de ses craintes, de ses larmes, de ses hésitations? Loin de nous scandaliser de trouver en elle cette horreur de la souffrance et de la mort qui vient de la nature, nous admirons au contraire la marque d'une vraie sensibilité qui donne plus de prix à son sacrifice et à sa résignation. Le chrétien, vous le savez, n'est pas un stoïcien. Il sent vivement la douleur. Il avoue qu'elle est un mal. Il ne va pas au-devant d'elle, mais il l'accepte quand elle est là. Et c'est ce que fait Jeanne. On pourrait encore souligner d'autres traits qui font ressembler la mort de Jeanne à celle de notre Seigneur. Au pied du bûcher, par exemple, elle s'attendrit sur Rouen, tout comme Jésus s'est attendri sur Jérusalem. Elle prédit et déplore la perte de son juge, comme Jésus a prédit la perte de Judas. Elle pardonne à ses bourreaux. Et à sa demande, alors qu'elle approche du bûcher, on lui donne une petite croix de bois qu'elle tient entre ses mains, qu'elle couvre de ses baisers avant de la placer sur son sein. Vous voyez la présence de la croix au moment où elle va mourir. Puis elle supplie qu'on tienne élevée devant elle la croix de procession de l'église voisine jusqu'au moment de sa mort, afin, dit-elle, que la croix où Dieu pendit soit en ma vie continuellement devant mes yeux. Continuellement devant mes yeux. On peut dire que c'était le cas depuis déjà bien longtemps. Et elle meurt dans les flammes en répétant plusieurs fois le nom de Jésus, les yeux fixés sur cette croix qui est là devant elle. À Fatima aussi, on peut dire que les petits voyants ont connu d'une certaine manière la passion. François et Jacinthe, vous le savez, ont été emportés tout jeunes par la maladie, au milieu de souffrances très vives, qu'ils ont supportées avec une patience héroïque. Jacinthe, qui était encore toute petite, est morte toute seule, loin de chez elle, à l'hôpital de Lisbonne, dans de grandes souffrances. Lucie, qui est restée seule pour faire connaître au monde le message du cœur immaculé de Marie, a été arrachée à sa famille, condamnée au silence et à l'isolement pendant de nombreuses années. Et c'est ainsi, au milieu de ces contradictions et de ce silence qui lui était imposé, qu'elle a accompli son œuvre de messagère. Les voies du bon Dieu ne sont vraiment pas les nôtres. Alors, mes frères, pour terminer, demandons-nous, si Jeanne d'Arc, après le couronnement de Reims, était rentrée dans sa chaumière de Don Rémy et qu'elle y eût achevé ses jours dans les travaux obscurs de la vie champêtre, qu'en resterait-il aujourd'hui ? Que pourrions-nous en dire ? Certainement pas tout cela. Des ombres se mêleraient aux rayons de sa gloire. Sa mémoire se partagerait entre la légende et l'histoire. On louerait peut-être encore l'héroïne, mais l'œuvre sainte et surnaturelle de Dieu disparaîtrait complètement. L'essentiel serait perdu parce qu'il y manquerait le sceau de la croix. C'est ça le plus important. Et pourquoi ? Parce que le mal qui menaçait la France au XVe siècle n'était pas seulement ni d'abord politique et militaire. Il était religieux. La France possédait un trésor bien plus précieux que son indépendance territoriale, sa foi catholique, son orthodoxie. Et c'est ce trésor qu'elle risquait de perdre, que la France, à ce moment-là, devint anglaise. Un siècle plus tard, elle cessait d'être catholique. Ou bien, si elle avait résisté alors à ses dominateurs, elle se serait précipitée, comme l'Irlande, dans des luttes et des calamités sans fin. Vous voyez que pour l'Irlande, c'est même pas encore fini. On a justement fait remarquer que les juges anglais qui prononcèrent la sentence de Jeanne ont prophétiquement signifié, 100 ans à l'avance, leur propre condamnation. Ils ont écrit sur la mitre de Jeanne les mots suivants « hérétique, apostate, schismatique, mécréante de la foi catholique ». Or, ce sont là précisément les qualificatifs qui conviennent exactement à la rébellion anglicane. À ce péril religieux, il fallait donc un remède surnaturel. Quand la religion du divin crucifié est en cause, a écrit le cardinal Pie, les prodiges de valeur ne suffisent pas. Il faut des prodiges de douleur. Il faut la croix. C'est le plan de Dieu, on n'en sortira pas. Il n'y a pas d'autre moyen. Et telle est donc la leçon qu'il nous faut retenir. Et vous voyez comme elle est d'une actualité brûlante. La foi catholique est aujourd'hui en péril de mort, beaucoup plus qu'elle ne l'était au temps de Sainte Jeanne d'Arc. L'apostasie est universelle. Ce n'est plus seulement la France qui est menacée, c'est l'univers, c'est l'Église elle-même. Alors, pour conjurer ce mal, il faut des prodiges de prière et de sacrifice. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que Dieu nous dit à travers la pucelle d'Orléans et c'est ce qu'il nous redit aussi à travers le message des petits voyants de Fatima. Pour terminer, il est bon de relire ces paroles que Sœur Lucie a adressées au Père Fuentes. C'était dans les années 50. Elle disait « N'attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier. » N'attendons pas non plus qu'ils viennent des évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations religieuses. Non, notre Seigneur a déjà utilisé bien souvent ses moyens et le monde n'en a pas fait cas. C'est pourquoi, maintenant, il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Et notre réforme spirituelle, elle porte un mot, un seul mot, c'est la croix de Jésus. Eh bien, c'est la grâce que nous pourrons demander en ce dimanche de la solennité de Sainte Jeanne d'Arc à Notre-Dame et aussi à Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle nous fasse comprendre ces choses-là et surtout qu'elle nous les fasse pratiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.